Donc, merci à la Fédération de recherche en santé mentale de me permettre de venir partager ce qui a été un de mes plus grands bonheurs professionnels, donc cette expérience pédagogique. Et puis, quand Charles-Édouard dit cite uniquement mon nom, il se trompe, hein, parce qu'on était toute une équipe d'enseignants et c'est tous ensemble qu'on avait pu faire avec les étudiants ce travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, enseignants, de toute cette violence? C'est la question qui s'est imposée à moi à la lecture de travaux écrits rendus par les étudiants en médecine de quatrième année du certificat optionnel dont j'étais responsable. On avait, en 2007, profondément changé les modalités pédagogiques pour les centrer sur l'étudiant en tant que personne, avec son histoire, avec son affectivité, son désir de pratiquer une médecine porteuse de sens et surtout à reconnaître toutes ses capacités réflexives en les nourrissant pour qu'il les développe. Et pour la première fois, on allait les évaluer sur des travaux écrits dont ils avaient chacun choisi le sujet, la consigne étant « Vous allez approfondir lors de ce travail écrit une question, n'importe laquelle, pourvu que ce soit celle qui vous intéresse, vous, qui vous questionne, vous, et quel est rapport avec ce qu'on a travaillé pendant l'année ». Et donc, j'étais très impatiente de découvrir sur quoi ces jeunes qui avaient 23 ans, 24 ans, avaient choisi de travailler. Et ma curiosité s'est transformée en surprise, puis en stupéfaction, et finalement en saisissement. Parce que, au-delà des capacités de réflexion, de distance critique, de problématisation, ce qui s'exprimait là, sur des sujets variés, était un vécu de violence tel qu'après avoir lu la moitié des écrits, poursuivre la lecture m'est devenue insupportable. Donc j'ai dû appeler une amie pour faire tomber le malaise, c'était Catherine Legrand-Séby qui est anthropologue à Lille 2. Elle n'était pas là, c'est son mari qui m'a écoutée et je l'en remercie encore. Et après coup, Catherine m'a dit, mais ce dont tu me parles, tu dois en parler, tu dois le publier avec les étudiants, aller en congrès et aller en discuter. Et donc après, tous les ans, je choisissais dans les écrits trois écrits. Et je rappelais les étudiants en leur disant, bah, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait qu'on poursuive la réflexion et qu'on ensuite, cette réflexion, on la propose dans différents congrès. Et donc, on a pu faire ça 5 ans de suite avec 9 étudiants que je voudrais remercier profondément ce soir et Charles-Édouard en faisait partie. Alors, dans ces travaux, donc, de quelle violence s'agit-il? Donc, il s'agissait de très jeunes adultes, 19-20 ans, qui, dès le stage infirmier de fin de première année, avaient été confrontés à la souffrance, à la mort, à la transgression profonde de la norme sociale inhérente aux pratiques soignantes, hein, Charles-Édouard en a parlé, intervention sur le corps de l'autre, confrontation à la nudité, effraction corporelle, diagnostique ou thérapeutique. Excusez-moi. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je vais l'éteindre. Voilà, comme ça, c'est fini.
On en parle. Excusez-moi. Pour le faire.
Voilà. Et donc, ils avaient été confrontés aussi donc à l'effraction corporelle, un diagnostic ou thérapeutique, et puis ils avaient été confrontés à la réduction de la personne soignée à un objet de savoir scientifique. Et certains avaient aussi été les témoins impuissants et troublés de conduites qu'ils désapprouvaient, sans possibilité d'expression ni d'élaboration. D'autres, souvent des garçons qui avaient débuté en croyant qu'à force de travail acharné, ils finiraient par savoir comment guérir toujours et à éviter la mort qui était vécue comme une souffrance ou comme un échec, eh bien, ils prenaient conscience, petit à petit, que la médecine n'était pas toute puissante. Alors, où s'arrêter? Quand commencer l'acharnement thérapeutique? Comment rester un vrai médecin quand on ne peut plus guérir? Et face à toutes ces questions, confronté à ça depuis plusieurs années, sans aucun interlocuteur plus ancien dans le métier pour en discuter, tous ces jeunes étaient restés seuls. Ce qui était le plus frappant encore dans les écrits, c'était que les étudiants ne semblaient pas conscients de cette éprouvée de solitude, qui était devenue si habituelle après 4 ans que c'était devenu comme une seconde nature. Alors que cette solitude, elle suintait à chaque page. Et mêlée à la solitude, autre chose faisait violence aux étudiants. Une forme de brutalité dans les études. Ils souffraient de la dépersonnalisation dont les malades et eux-mêmes étaient l'objet. Ils doutaient d'être faits pour un métier dont les études valorisaient la seule dimension scientifique. Ils doutaient de l'existence de la médecine qu'ils souhaitaient exercer plus tard et ils craignaient de s'épuiser avant la fin de leurs études. Tout ça, ça les rendait au mieux perplexes et au pire était source de désarroi. Alors comment se fait-il que des étudiants en médecine soient laissés si seuls si longtemps avec ces questions ? C'est que les compétences théoriques et pratiques qui sont transmises par les études de médecine en France sont quasiment exclusivement fondées par le discours scientifique et par le modèle biomédical de la maladie. Alors, il ne s'agit pas de critiquer la pertinence de ce modèle qui est vraiment d'une efficacité extraordinaire et qui a permis en grande partie la majorité des progrès de la médecine. Hein. D'ailleurs, on peut faire, c'est grâce à ce modèle biomédical, entre autres, qu'on a pu faire reculer beaucoup la mortalité infantile avec les règles hygiéniques et que sinon, par exemple, on pourrait diviser l'amphi en deux comme ça. Je vais mettre de ce côté-là. Et donc, toute cette partie-là de l'amphi, on serait déjà plus là. C'est grâce à l'efficacité du modèle biomédical de la maladie, mais il est très efficace, mais en même temps, il pose problème pour la médecine, parce que comme il est référé uniquement comme par la maladie comme objet de science, il exclut de son champ théorique la maladie comme expérience subjective et aussi l'apprentissage de l'étudiant, puis la pratique du métier, comme une expérience subjective qui est personnelle, sociale et existentielle. Les autres cursus de formation en santé, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes ou les sages-femmes, prennent en compte beaucoup plus la subjectivité de l'étudiant qui ne souffre pas, ou beaucoup moins, d'un déséquilibre aussi profond que celui qui affecte les études de médecine. Alors, quel que soit le cursus, quand on analyse ce qui fait violence aux étudiants dans leurs études, on peut repérer deux registres dont l'un est évitable. Le premier registre de violence est fondé par la condition mortelle, par la souffrance, la vulnérabilité, la perte, la rencontre de l'autre souffrant, comportant pour les médecins l'annonce des mauvaises nouvelles, par l'intervention sur un corps abîmé ou intact, par l'impuissance à tout soulager ou tout guérir, par l'incertitude à déterminer ce qui est bien, et aussi par l'exercice ardu de la responsabilité. Ce premier registre, qui est existentiel, est fondé sur la condition humaine et sur la condition soignante, et ce serait folie de l'éviter. Le deuxième registre, celui de l'évitable, la surviolence, est double. Il est constitué d'abord par une carence d'élaboration personnelle et collective sur le premier registre. Comme ils sont laissés seuls, les étudiants, ils ne peuvent pas travailler ça, que ce soit individuellement et même avec les autres. Donc, constitué par cette carence d'élaboration sur le premier registre et par le malaise lié à cette carence, ils s'attendent à autre chose que la délivrance des connaissances de mémorisation pure. Ils s'attendent à autre chose parce qu'ils en ont besoin pour devenir médecins. Ils ont besoin qu'on travaille avec eux l'impact qu'a sur eux la plongée dans la vie brute de l'hôpital. Ils ont besoin qu'on travaille avec eux la dimension psychique et relationnelle du soin, les questionnements éthiques liés aux soins. Il leur manque quelque chose et il leur manque de comprendre ce qui leur manque. Et il leur manque de comprendre pourquoi cet indispensable est absent de leurs études. Et ça leur manque parce qu'ils n'ont pas les outils. Et ça leur manque aussi parce que les études telles qu'elles sont exigent énormément d'eux. Ils ont très vite une vie qui est très différente de tous les autres étudiants de leur âge. Par exemple, il y avait une étudiante qui était dans une coloc avec d'autres étudiants qui ne faisaient pas médecine et qui, au bout d'un moment, en avait ras-le-bol parce qu'elle ne sortait jamais. Elle disait toujours « Mais non, je dois travailler, j'ai mes examens, j'ai mes conférences, j'ai ceci, j'ai cela. » Et ça les isole aussi. Et c'est des études qui durent 10 ans. Ils arrivent à 18 ans, ils terminent, ils ont 28 ans et ils se sont complètement structurés toute la période de jeune adulte et complètement intriqués avec les études et comment elles vont les construire, comment ils vont se construire humainement par rapport à ça. Le registre de l'évitable est constitué ensuite, deuxièmement, par la violence que constitue pour les étudiants l'abus de pouvoir sur le patient vulnérable. Alors, l'exercice du pouvoir lié aux soins nécessite un développement particulier. Comme on l'a dit, les étudiants sont amenés à des gestes transgressifs très forts, d'interdits très forts, déshabiller les gens, toucher les parties les plus intimes de leur corps, ouvrir la peau, parfois les attacher. Et c'est des interdits qui sont, pour les gens qui ne sont pas soignants, qui sont posés par la loi. Dans les sociétés démocratiques, pour protéger le faible de la loi du plus fort, L'état de droit institue l'interdit d'attenter au corps d'autrui. Et donc autoriser la transgression soignante, c'est un acte social responsable, un choix entre deux impératifs, ne pas porter atteinte au corps de l'autre et d'un autre côté lui porter secours. Donc devenir soignant, c'est apprendre à transgresser et les gestes de transgression soignante qui sont indispensables au métier, Charles-Édouard l'a dit, sont vraiment donc loin d'être anodins. Il suffit de demander à une aide-soignante ce qu'elle a ressenti la première fois qu'elle a dû faire une toilette à un patient du sexe opposé, à une infirmière les premières fois qu'elle a fait mal à un patient quand elle a essayé de le perfuser, ou bien à un médecin les premières fois qu'il a fait un toucher vaginal ou un toucher rectal. Donc on doit apprendre à faire à l'autre ce qui est interdit aux autres et à le faire de façon responsable. Et déjà, ça, l'apprentissage de cette transgression-là, là, Charles-Édouard, il nous a parlé de quelque chose qui s'est déroulé dans un contexte vraiment très, pas du tout propice à apprendre de façon constructive, mais c'est pas du tout rare. Enfin, c'est un exemple un peu caricatural, mais en faisant moins caricatural, c'est pas rare. Donc, l'apprentissage de cette transgression, même si on mettait les conditions au mieux, c'est déjà pas en soi une expérience simple. Ça peut être une expérience troublante. Une autre expérience profondément troublante pour l'étudiant, et là potentiellement très déstructurante pour lui, c'est constituée par le fait d'être là quand des professionnels abusent envers le patient du pouvoir qui est conféré par la symétrie de la relation de soins. L'abus de pouvoir sur le patient dont il est témoin fait affreusement violence à l'étudiant. Il l'impacte intimement. Il sature ses capacités rationnelles qui sont sidérés par une espèce de ressenti composite intense de stupéfaction, d'incrédulité, d'horreur, de crainte, de révolte, d'impuissance, ça fait beaucoup, de solitude, de rupture d'idéal et de perte de confiance dans le modèle. Ils sont en train de faire ça à ce malade. Personne ne dit rien. Il n'y a que moi que ça gêne ici. Le patient lui faisait confiance, devrait pouvoir être en confiance. Comment se fait-il que ce professionnel se conduise comme ça, alors que dans d'autres circonstances, il se comporte comme un bon soignant? Est-ce que je risque de devenir comme ça? C'est pas bien ce qui se passe ici, mais je ne dis rien. Si je dis quelque chose, ça va se retourner contre moi. Si je ne dis rien alors que j'ai été témoin, est-ce que je suis complice? Si je dis ce que j'ai vu, est-ce qu'on va me croire? Ils restent interdits et silencieux. Leur inhibition à intervenir, leur silence, entretenu par la difficulté de mettre des mots sur l'innommable, peut les conduire à douter de leur humanité. Ça fait partie de la perversité de la situation. Et trouver le courage d'en parler, c'est faire réexister, revivre quelque chose qui n'aurait jamais dû être. Une étudiante en médecine relate une situation vécue quand elle était en deuxième année. En deuxième année, les étudiants n'ont pas 20 ans. Un chef de service emmène un petit groupe d'étudiants dans une chambre. Il demande à la patiente de se mettre à quatre pattes. Il lui enlève son sous-vêtement et il dit aux étudiants « Entraînez-vous au toucher rectal, je reviens dans 10 minutes. » Le médecin partit. Les étudiants se sont regardés. Ils se sont excusés auprès de la patiente. Ils l'ont aidé à se rhabiller. Et ils sont sortis. Dans son analyse, l'étudiante pointe le caractère extrême de cet exemple de violence. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « C'est d'une violence sans nom. Il abuse de son pouvoir en niant l'humanité de la patiente, la nôtre et la sienne. » Mais elle souligne la banalité de la violence ordinaire dont Charles-Édouard a déjà parlé. « Il nous suffit, dit-elle, pour réaliser un acte violent, d'entrer à 10 dans une chambre sans adresser ni un mot ni un regard au patient » et de parler de l'histoire de sa maladie comme s'il n'était pas là. Dans la plupart des cas, les étudiants se taisent. Au plus, en parlent-ils avec d'autres étudiants. Ils ont partagé ce qu'ils ont vécu, mais ils n'ont pas d'outils pour élaborer. Ils assimilent leurs expériences comme ils peuvent, avec doute, découragement, culpabilisation, et aussi banalisation de la souffrance de l'autre, de leur propre souffrance, et banalisation des conduites mimétiques déshumanisantes, puisque le soignant en formation est vulnérable au modèle de rôle. La première condition pour qu'ils se confient, c'est qu'ils aient confiance. Mais cette confiance, elle ne se décrète pas, elle se sécrète lentement. Cette étudiante qui avait parlé du toucher rectal collectif, il lui a fallu plusieurs mois de préparation d'un congrès pour oser dire que la patiente était obèse, aveugle et handicapée mentale. Et l'étudiante dont je parlerai tout à l'heure n'avait pas parlé de son expérience traumatisante à ses enseignantes, qui étaient pourtant ouvertes et impliquées et qui invitaient régulièrement leurs élèves de première année à venir les voir si elles rencontraient un problème. Donc une piste pour un travail ultérieur, ce serait de chercher à découvrir à quoi tient cette confiance qui va faire que l'étudiant, il va finir par oser passer par tout ce qui lui est arrivé. Alors que faire avec et pour les étudiants des expériences qu'ils rapportent? L'expérience pédagogique des essais réflexifs lors de l'enseignement optionnel a duré 4 ans. À la fin de chaque année, la pile des écrits témoignait toujours aussi vivement des souffrances provoquées par les études. Mais à chaque fois aussi, les étudiants pointaient que le parcours avait été structurant par la réflexion sur les études et sur le métier, par la reconnaissance de la place des émotions et par la confiance qu'ils retrouvaient dans l'exercice de la médecine. Pour certains étudiants, le cursus avait une valeur thérapeutique des étudiants qui souffraient de leurs études, certains parlant de parcours spirituel ou même initiatique. Alors l'équipe enseignante s'était appuyée sur les postulats suivants. Les expériences propres des étudiants liées à la maladie grave, à la souffrance, à la mort ou à l'exercice des gestes, ça constitue pour eux, de façon toujours singulière, à la fois un apprentissage et une source de questionnement, voire de malaise dans certains cas. Ces expériences... Oh non, je ne réponds pas. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone. J'ai cafouillé avec le fait de... Voilà. Donc, ces expériences, disais-je, constituent un matériau pédagogique vivant et concret à partir desquelles peut être retravaillée, merci François, la dimension objective, hein, on peut retravailler la dimension objective, ces expériences, je recommence, ces expériences constituent un matériau pédagogique vivant et concret à partir desquelles on peut travailler la dimension subjective, émotionnelle, réflexive et éthique, et on peut, à partir de ces expériences, amener les éclairages des référentiels théoriques, psychologiques, épistémologiques, philosophiques, anthropologiques, sociologiques, qui permettent aux étudiants de poser, de penser les limites des différents modèles et de retrouver confiance en eux et en l'exercice d'une médecine soignante. Les étudiants peuvent apprendre beaucoup les uns des autres. Et l'effet bienfaisant du partage en confiance des expériences et d'élaborations qui rompt avec la solitude est une découverte pour nombre d'entre eux. Ils ne se rendent pas compte que le fait de partager et d'élaborer va leur apporter autant. Un des rôles des enseignants, et à mon sens le plus important, une fois qu'on l'a écouté, c'est de mettre en lien les expériences des étudiants avec les référentiels théoriques pour en faire des outils de compréhension et de questionnement des pratiques. Le recul critique et la meilleure compréhension de soi-même, de l'autre et du milieu du soin, charpente l'étudiant et l'aide à se construire pour faire face à son métier. Donc, quelles étaient les finalités du cursus? D'abord, c'était de replacer la pratique médicale sur l'horizon de la mort, c'est-à-dire en tenant compte de la finitude de l'être humain et de sa condition de mortel. Finalement, la mort dans l'existence est la seule certitude que l'on ait. Personne ne peut jamais être sûr de ce qui va lui arriver dans la vie, mais par contre, on peut être sûr absolument, de façon absolument certaine d'une chose, c'est qu'un jour nous mourrons. La deuxième finalité était de valoriser la dimension intersubjective de la relation médecin-malade et de permettre aux étudiants d'élaborer une parole médicale qui aille au-delà d'un discours sur l'organe, en faisant place à la parole du médecin et à son ouverture à l'autre comme un fondement du soin. Réhabiliter la dimension soignante de la médecine, puis l'articuler à la dimension du guérir, en réfléchissant à ce que c'est un soin, à ce que c'est qu'un traitement, et sur des projets de soins en fonction de l'état clinique du patient. La cinquième finalité, c'était de sensibiliser les étudiants à la richesse de l'interdisciplinarité. D'ailleurs, le concept de projet de soins, ça vient directement de la culture infirmière. C'est un terme qui n'existe pas en médecine. En médecine, ce que les étudiants apprennent, ce sont des standards, qui s'appellent des orientations diagnostiques et conduites à tenir, qui leur demandent d'ailleurs un travail énorme pour mémoriser, comprendre, articuler les uns avec les autres. Mais les études n'enseignent pas ou très peu à les moduler en fonction du contexte clinique propre aux patients. Surtout, si au lieu de former avant tout des futurs médecins, les études sont prioritairement orientées vers la préparation de candidats à l'examen national classant. Donc, parvenir à ces finalités nous est apparu indissociablement lié à différents éléments. Permettre aux étudiants de prendre conscience et de prendre du recul envers quatre modèles que je ne vais pas détailler maintenant, faute de temps, mais que, si vous le souhaitez, je pourrais y revenir, qui fondent la théorie de leurs études et qui fondent l'action pratique qui en découle. Le modèle biomédical de la maladie, le modèle de la maladie aiguë, de la crise, le modèle de l'expert et le modèle du problème simple. Ça, c'est un des éléments qui nous paraissait indissociablement lié pour parvenir aux finalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Un des autres éléments, c'était d'accueillir la dimension du sens chez l'étudiant et la dimension psychique, et de les reconnaître toutes les deux comme inséparables de la pratique médicale, la question étant alors celle du rapport de l'étudiant à la question du sens et à ses émotions, fussent-elles intenses au cours de sa pratique. Faire place aussi à une révolte envers la forme des études et envers leurs carences, de leur donner un espace de parole, Charles-Édouard en a parlé, sur des expériences problématiques, violence aux malades, à la famille ou à l'étudiant lui-même, et d'aborder d'emblée la complexité à partir de celle de leur état d'étudiant, complexité de la technique à acquérir, complexité relationnelle dans leur rapport à l'autre, au malade, à l'entourage du malade, aux collègues de travail, quel que soit son métier, à l'enseignant, complexité éthique par rapport à la transgression, aux limites, à l'incertitude, à la responsabilité, et complexité organisationnelle. Donc cet état d'étudiant, il est suffisamment complexe pour que l'élaboration à son sujet, couplée à la prise de recul par rapport aux quatre modèles dont j'ai parlé, ça permettait d'aborder celle de leur future profession. Alors, on doit dire qu'en début d'expérience, on considérait les éléments que je viens de décrire, ce qui est indissociablement lié, comme des détours pédagogiques, des moyens, avant de prendre conscience au fur et à mesure, devant la vitalité du processus, c'est-à-dire devant l'engagement des étudiants, la confiance et le respect mutuel, la liberté de parole, l'attention au contenu théorique, l'intérêt pour le questionnement, l'abord de la complexité et le degré d'élaboration, enfin pour nous, c'est pour ça que je disais que c'était un de nos plus grands bonheurs professionnels, et devant le retour des étudiants et de leurs écrits, que ce type de parcours leur permettait de se construire, de s'engager dans une construction professionnelle et personnelle comme étudiant, comme futur médecin et comme jeune adulte en devenir. Et de ce fait, je ne sais plus très bien comment nommer ces éléments. Et au fur et à mesure des années, j'ai compris que ce que nous abordions, et ce que nous abordions de cette façon-là, c'était la matière originelle même du métier, et c'est pour cette raison que cette réflexion concerne l'ensemble des études médicales et pas seulement les soins palliatifs. Que faire à l'échelle des institutions de formation et de soins des violences rapportées par les étudiants? Cette réflexion nécessite un détour sur la particularité de l'asymétrie dans la relation enseignant-apprenant pour les professionnels de santé. À la différence des relations symétriques, une relation symétrique, c'est une relation où il n'est, à la différence des relations symétriques comme celle de l'amitié. Une relation asymétrique, c'est une relation où il n'est pas possible d'intervertir les personnes en relation sans modifier profondément les rapports entre eux. Un des pôles de la relation asymétrique est en position d'autorité et de pouvoir par rapport à l'autre pôle qui est en position de dépendance et de vulnérabilité. La question éthique posée par la relation asymétrique ne dépend pas du pouvoir et de l'autorité eux-mêmes qui existent et qui ne sont pas mauvais en soi. Ils dépendent de l'usage qui en est fait. Est-ce que c'est servir ou est-ce que c'est asservir, dominer l'autre, lui faire du mal, le réduire? L'enjeu éthique de la relation asymétrique, c'est de contribuer à l'humanisation de l'humain et non à sa déshumanisation. La particularité de la relation enseignant-apprenant pour les professions de santé, c'est que la mission de l'enseignant est de transmettre aux novices les compétences requises au service de la relation soignant-soigné. On est donc engagé dans deux relations asymétriques, l'une qui engendre l'autre. On est responsable deux fois, une fois directement envers le jeune adulte qui est l'étudiant, qui a besoin d'apprendre et de se construire en humanité à travers l'apprentissage jamais sans épreuve d'un métier difficile, et on est responsable indirectement, une seconde fois, envers le malade qui a besoin de soignants qui soient compétents et attentifs. Nous allons analyser la situation du deuxième exemple. Il s'agit de réfléchir sur la démarche à adopter et de décider, en respectant les sphères de responsabilité de chacun, jusqu'à quel niveau de responsabilité institutionnelle il est juste de porter la connaissance d'une situation de maltraitance à malade, relevant juridiquement du pénal, alors que l'étudiante témoin ne consent pas à ce témoignage de peur que cela ne se retourne contre elle. À quel titre les acteurs sont-ils concernés ou impliqués ? L'étudiante. Elle est témoin unique de la situation dont elle pâtit encore. Elle a peur des conséquences d'être celle qui a dit ce qui s'était passé, de devoir retourner dans le service en question, d'être confrontée à l'équipe de soins. Elle a complètement perdu confiance dans les soignants. Elle craint très fort de laisser sa grand-mère en hospitalisation de peur qu'il lui arrive la même chose. Elle attend des enseignantes que les enseignantes ne lui causent pas d'ennui, parce que c'est en toute confiance envers elle qu'elle a écrit ce récit qui était très difficile à faire. Et elle refuse catégoriquement que ce qu'elle a écrit dans sa copie soit utilisé pour une démarche envers le service où se sont déroulées les fêtes, même s'il s'agit d'une démarche pour réfléchir, hein, et rencontrer, évoquer le problème, et pas une démarche juridique. Les étudiants de la classe, ils savent qu'une copie a dépassé l'imagination des enseignantes en termes de mauvais traitements infligés à un malade en présence d'un élève. Les enseignantes qui recueillent l'histoire, elles sont mandatées pour des cours d'éthique. Et elles exercent à cet égard une responsabilité éthique. La gravité des faits les oblige leur donne une obligation morale et pédagogique d'informer les cadres de l'école de ce qui est relaté dans les copies et du nombre préoccupant de copies relatant des situations de manquement à malades. L'Institut de formation et ses cadres. Ils sont mandatés par un CHU. Ils ont donc une mission d'enseignement aux étudiants et à cet égard, ils exercent une responsabilité éthique. Ils sont en position d'autorité et de pouvoir dans deux relations asymétriques, la relation enseignant-apprenant avec les étudiants et la relation hiérarchique avec les enseignantes chargées de cours qui ont recueilli l'histoire dans les copies. Il va relever de leur compétence de définir l'attitude à adopter face à la situation envers l'institution au sens large, c'est-à-dire dans le service concerné, dans l'école elle-même et dans le CHU. Il leur revient de définir à terme aussi l'attitude à adopter envers les étudiants qui sont confrontés à ces situations et envers les services qui accueillent en stage. Le CHU lui-même est mandaté par la société pour les missions de soins et d'enseignement, assurer les meilleurs soins aux patients et assurer une formation de qualité aux étudiants qui sont inscrits dans ces murs, cursus théorique, terrain de stage, accompagnement. À cet égard, ils exercent une responsabilité éthique, légale et sociale. Pour accomplir cette mission et pour en répondre, les CHU ont besoin d'être informés, l'institution a besoin d'être informée de problèmes graves qui nécessitent une régulation et une réflexion institutionnelle à différentes échelles. Les décideurs de cette sphère de responsabilité ont un rôle d'autorité et de pouvoir sur l'ensemble des acteurs de la situation. La société mandate les CHU pour le soin et l'enseignement, elle est en droit d'attendre un service approprié et judicieux comportant le cas échéant des ajustements ou les sanctions adéquates. La maltraitance ordinaire, d'ailleurs, a fait l'objet d'une étude qui a été commanditée par la HAS en 2009. Et au-delà de ces implications spécifiques de chaque acteur, il y en a une qui les concerne tous, c'est la transmission des valeurs réelles du milieu. Cette occasion, enfin, faut bien voir que pour les étudiants et l'étudiante en question et les élèves de sa classe, cette occasion, c'est vraiment une situation authentique d'apprentissage. C'est-à-dire que ils vont apprendre beaucoup sur les métiers du soin en voyant comment les enseignants s'accordent ou non sur la ligne de partage entre l'acceptable et l'inacceptable, le tolérable ou l'intolérable, et en voyant comment la situation sera traitée, et ce, quelle que soit la démarche que nous allons adopter. C'est que les enseignantes qui recueillent l'histoire, les cadres de l'Institut de formation et indirectement les cadres de l'institution hospitalo-universitaire ont un rôle de modèle envers les étudiants. Le degré de cohérence entre les actes et le discours, surtout sur le plan éthique pour les étudiants, ce degré de cohérence est un signal fort sur les valeurs réellement prévalentes dans l'univers des professions de santé. Si l'attention aux vulnérables, sa protection sont portées en actes, sont incarnées par les enseignants, l'étudiant est orienté authentiquement dans leur direction. La responsabilité gigogne de l'enseignant est assumée envers le novice et envers le patient. La relation asymétrique prend la voie de l'humanisation partagée qui en est l'enjeu éthique. Dans le cas contraire, le degré de cohérence entre le discours et l'acte est faible, le modèle de rôle s'inverse dans le sens d'une triple décrédibilisation du discours, de celui qui le tient et de l'univers des professionnels de santé. Bien que cela ne soit pas dit et qu'il soit affirmé le contraire, les valeurs premières véhiculées implicitement dans le milieu, ce qu'on appelle le curriculum caché en pédagogie, ne sont pas l'attention et la protection du vulnérable. La confiance envers le modèle et le milieu se délite, la dynamique de responsabilisation envers le malade est étouffée dans l'œuf, le sens de la relation asymétrique se dévoie. La loi du silence est très puissante dans le milieu du soin. Une psychiatre, Madame Torres, qui intervenait au colloque Violence et soins à la Villette en janvier 2013 sur le thème du sadisme ordinaire en psychiatrie, disait « Les institutions n'ont pas le courage d'aborder ça ». Mais une institution, ça n'est pas une entité abstraite. Une institution, c'est le reflet de ce que les êtres humains qui la composent en font. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les êtres humains qui composent des institutions n'ont pas de courage ? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont lâches ? C'est que la parole de témoin, que l'on soit étudiant ou enseignant, c'est une parole qui coûte. Ceux qui osent parler, ils dérangent, ils inquiètent, ils suscitent des mécanismes de défense collective plus ou moins conscients, d'exclusion, aux motifs, avec des motifs d'excuses qui visent au maintien des choses en l'état. Telle étudiante de cinquième année qui racontait en présence d'une professionnelle à une autre étudiante la scène à laquelle elle venait d'assister. C'était un chef de service qui avait pris la tête de deux internes comme ça et puis qui les avait cognés l'une contre l'autre parce qu'il n'était pas d'accord avec les internes. Elle s'est vue convoquée par l'agrégé qui lui a reproché son manque de respect envers le chef de service. Le certificat optionnel de soins palliatifs a été supprimé sous cette forme. Au motif que ce qui s'y faisait, mais qui m'a jamais été directement dit à moi, était que ce qu'on y faisait, c'était pas assez technique, pas assez médical, et qu'avec les travaux écrits, on ne pouvait pas vraiment savoir ce que les étudiants savaient. Et dans l'école de l'étudiante confrontée à la maltraitance relevant du pénal, les seuls débouchés concrets sont qu'on n'envoie plus de stagiaires dans ce service et qu'il a été décidé de faire réfléchir les étudiants sur des situations choisies par les enseignants, mais plus sur des situations que les étudiants auraient vécues eux-mêmes. L'institution serait un milieu où rien ne bouge. Pourtant, si rien ne bouge, c'est contraire à la vie. Dans la vie, ce qui ne change pas, c'est que rien n'est permanent. La conscience est la liberté qu'on exerce en parlant de ce qui est tu, de ce qui déshumanise, de ce qui tue l'humain, est à l'évidence très subversive. Mais pour qui ? Pourquoi ? Et pour quel motif ? Dostoïevski a peut-être un élément de réponse. Dans Les Frères Karamazov, à un moment, il y a un personnage qui dit à un autre personnage « Mais tu ne te rends pas compte que la liberté, les hommes n'en veulent pas ?» Le silence des autorités traduirait alors la peur de la vie et le silence des témoins, la peur d'affronter le rejet de ceux qui s'accommodent des côtés mortifères de l'institution. Pourtant, je crois que le cœur profond de chacun d'entre nous aspire à la vie. S'appuyer sur cette qualité d'aspiration qui est présente au cœur de nous-mêmes inspire la liberté et la confiance, qui est l'antidote de la peur. On trouve davantage de confiance si on n'est pas tout seul. C'est pourquoi je remercie profondément les organisateurs de cette soirée d'avoir pu travailler ces questions ensemble.